Comme à tous les deux semaines, on reçoit l'Arbre l'Éclaircie qui viennent nous jaser un peu de leur service, un peu des contextes, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe. Bien, aujourd'hui, on reçoit Julie-Pierre qui va venir justement nous jaser de tout ça. Et aujourd'hui, écoute, Julie-Pierre, salut, bonjour, comment ça va pour me dire des choses?
Salut, bonjour.
Salut, bonjour. Ça va bien, vous autres?
Oui, ça va bien, mais je t'avoue parce que avant d'entrer en onde, j'ai comme regardé c'était vers où qu'on s'en allait, puis ouais. Je t'avoue que ça, je trouve ça, ça vient tout le temps me chercher, puis je le dis à chaque fois, là. Là, aujourd'hui, tu vas aller parler justement des bébés et les enfants qui sont comme témoins de tout ça, les co-victimes de la violence conjugale, qu'eux, ils n'ont rien demandé de tout ça, puis sont puis la femme non plus, mine de rien, on s'entend. Puis parenthèse, je vais faire en début de chronique cette fois-ci.
Okay. Bon moment.
Havre l'Éclaircie, c'est un service pour les femmes
victimes de violence conjugale.
C'est ça. Oui. Ouais. Les hommes, il y a d'autres organismes pour vous, mais nous, c'est Havre l'Éclaircie qui est avec nous. Fait que faites juste taper, justement, là, si jamais vous avez de besoin, messieurs. Fait que voilà, fait que c'est ça, on va parler plus, justement, là, de ce côté-là, là, les co-victimes de la violence conjugale.
Exact. Donc, dans la chronique précédente, hein, on a abordé la réalité des femmes enceintes victimes de violence conjugale et les conséquences qu'engendre cette réalité-là sur elles et leur bébé. Oui. Toutefois, il ne faut pas penser qu'à la naissance de l'enfant, ben la violence cesse. Hein? Bien au contraire.
On va avoir un petit temps de lune de miel.
Oui,
c'est si beau, mais au moment que là, la fatigue embarque, puis là, toutes les côtés, mettons, je veux dire, semi-négatifs, mettons, d'un nouveau-né, là, ça va devenir un peu plus affecter peut-être l'humeur de monsieur
ou
de madame, si jamais ils sont en couple, deux femmes ensemble. Mm-hmm.
Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est déstabilisant, puis bien au contraire, c'est ça, ça s'atténue, mais souvent, ça s'intensifie aussi dans le temps. Puis ça fait en sorte qu'il y a des enfants, justement, qui évoluent dans une dynamique de violence conjugale, puis qui en vivent les conséquences aussi. Fait que c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Pour commencer, c'est important de savoir qu'on va parler d'enfants exposés ou co-victimes de violences conjugales parce qu'ils sont eux aussi affectés par cette situation-là. Ils vont ressentir la tension, ils vont vivre eux aussi les effets des explosions, ils vont se sentir responsables de la violence, puis ils vont aussi garder espoir que la violence ne se reproduira pas. Hein? Donc, considérant que la violence conjugale, c'est une problématique difficile à cerner puis à comprendre pour tous, c'est faut pas s'attendre, en fait, à ce que les enfants soient en mesure de l'identifier clairement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 90 % des enfants qui sont conscients de ce qui se passe dans leur famille, mais qui n'en parleront pas parce qu'ils ne sont pas questionnés à ce sujet-là.
Ou
c'est de la normalité pour eux.
Oui, c'est ça.
Aussi. Ouais.
Ou que c'est normal, puis eux, ils ne s'en rendent pas compte que ce n'est pas supposé de se passer comme ça.
En effet,
là.
C'est vrai que souvent, quand ils vont en venir à côtoyer des amis, à aller chez des amis, justement, voir d'autres familles, ça va un peu être déstabilisant pour eux, ça va être un choc. Mais ils savent que, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? À la maison, ça ne semble pas être le bon moment d'en parler. Est-ce que les autres vont me comprendre? Justement, je suis différent. Donc, ils peuvent garder ça un peu secret avec eux. Mais il y a quand même d'autres enfants qui en parlent. Ce qui arrive, c'est que ces enfants-là vont souvent en parler dans leurs mots. Hein? Donc, en disant plus, maman, papa se chicanent souvent ou maman se fait souvent chicaner par papa. Donc, on ne va pas nécessairement penser que c'est nécessairement de la violence parce qu'on se dit, ben tout le monde peut se chicaner dans la vie. Hein? Fait que ça peut passer un peu sous silence. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont très, très bons pour sentir les rapports hiérarchiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on prend un contexte scolaire, ils sont très bons pour détecter qui est populaire versus qui est rejeté pour éviter d'être eux-mêmes rejetés.
Okay.
Donc, dans un contexte conjugal, donc de violence conjugale, ben ils vont être aussi capables de remarquer qu'il y a un parent qui va obtenir ce qu'il veut, qui va gagner en utilisant la violence, puis qu'il y a un autre parent qui perd, puis entre guillemets, qui se fait chicaner.
Le danger de reproduire les comportements violents.
C'est ça, exactement. Donc, il y a de fortes chances qu'ils en viennent à se conformer aux attentes, aux demandes du parent violent, puis à refuser d'écouter finalement ou de se conformer aux attentes, demandes du parent victime parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes être chicanés. Puis bien sûr, comme vous le dites, des fois, ça crée un modèle aussi. Puis pourquoi ils font ça? Ben c'est juste une façon pour eux de s'adapter à la situation puis de se protéger en même temps.
En même temps, on le dit souvent, là, on est les exemples de nos enfants. Puis l'enfant, là, devient pas au monde comme ça,
on s'entend. Pas du tout.
Fait que, tu sais, il voit cet exemple-là. Pis
c'est pas inné,
c'est acquis. Ben, c'est ça, c'est à force, au même titre que quand tu lui montres quelque chose, il l'apprend, ou bien les valeurs, on se dit souvent « je t'aime », il va le répéter. Bien, c'est un peu la même chose. S'il entend toujours des « ta gueule », ouais, probablement que c'est un de ces mots qu'il va aller mentionner, genre, tout le temps, tu sais, tu comprends?
Même frapper.
Certainement. Hein? Oui, exactement. Pour lui, c'est adéquat. Pour lui, ben en faisant ça, peut-être que l'autre va me donner ce que je veux. Justement, il va arrêter de parler. Il va me donner l'objet que j'arrête pas de lui demander, mais qu'il me le donne pas si je crie pas, par exemple. Okay. Donc, oui, ça peut être un apprentissage qui est fait. Puis, l'affaire, c'est qu'on sait que pour se développer de manière optimale, les enfants ont besoin d'un environnement qui est sécurisant tant sur le plan physique que psychologique. Ouais. Donc, ils ont besoin d'un environnement qui est prévisible, stable et sans violence. Quand on grandit dans un milieu où il y a un parent qui est violent envers l'autre parent, bien, cette stabilité-là, elle n'est pas possible. Puis, ça crée des répercussions chez l'enfant, justement. Donc, non seulement ces enfants-là vont être constamment dans la crainte, dans la terreur, mais en plus, ils font face à un plus grand risque là, de blessures, de problèmes de santé qui sont liés au stress du contexte. Ouais. Ils peuvent être aussi très confus là, par rapport à ce qu'ils ressentent par rapport à leur mère, par rapport à leur père. Peuvent penser que c'est à eux de protéger maman, justement, la victime, ou que c'est de leur faute si maman s'est fait crier par papa. Donc
ou d'agir comme le père s'ils veulent se faire aimer par le père.
Certainement aussi. Puis ça, d'agir comme le père, ça peut être aussi comme de prendre la place du père. Mm. Des fois, ils vont en venir à dire, ben dépendamment de comment le père réagit, papa, il n'est plus là ou il se montre très indifférent. Ça aussi, ça peut être une autre forme de violence des fois. Ben moi, je vais la prendre la place du père. Fait que ça pourrait être une autre chose qu'on voit. Mais ils peuvent aussi en venir à développer là, des problèmes de comportement, des difficultés scolaires, des difficultés sur le plan relationnel, donc dans la résolution de conflits ou même dans la confiance qu'ils vont accorder aux autres. La difficulté à développer une belle image d'eux-mêmes, une estime de soi, une confiance en eux. Puis bien souvent, ces enfants-là sont dans un état de stress post-traumatique. Donc, mais qu'ils vont recevoir des diagnostics comme un trouble oppositionnel, comme un TDAH, qui ne tiennent pas compte du contexte de violence conjugale. Okay. Fait que c'est très dommage là, quand on pense à
oui,
ça.
Oui, parce que dans le fond, il n'y a peut-être pas justement de trouble en tant que tel, mais c'est tout ce qui s'est passé, genre à la maison, tout ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont rendus là. Puis tu sais, c'est dépendant de l'âge aussi, parce qu'ils n'absorbent pas de la même façon, ils ne vivent pas de la même façon. Mmh. Dépendant de l'âge, ils ne comprennent pas de la même façon.
Puis les comportements aussi, il y en a qui vont rentrer dans le même mood, je vais le dire comme ça, là, que leur père, qui vont devenir violents, mais il y en a d'autres qui vont dire hey, « Non, moi, je ne vais jamais comme mon père plus tard, puis ça peut être tout le contraire, mais on ne sait jamais quelle tangente ils vont prendre, quelle direction ils vont prendre. »
Certainement, exactement. Donc, pour nous, c'est important justement de rappeler que la première étape pour aider un enfant qui est exposé, qui est co-victime à la violence conjugale, c'est d'aider le parent victime à reprendre du pouvoir sur sa vie. Fait que c'est pour ça qu'on tient à rappeler que le Havre l'éclaircie est là autant pour les femmes victimes de violences conjugales que pour les enfants, puis qu'elles ne doivent pas hésiter là, à nous contacter aussi. Là.
Puis quelle est la meilleure façon de pouvoir vous contacter?
Oui, la meilleure façon, c'est par téléphone, au 418-227-1025, autant pour de l'information que pour une demande de suivi. Mais il y a toujours là, notre page Instagram, notre page Facebook, notre site web. Donc, ça peut être d'autres façons.
On le rappelle aussi, vous pouvez appeler juste pour poser des questions. Oui. Puis ils vont vous répondre, tu sais, juste pour qu'est-ce que je pourrais faire. Puis t'accroches, puis tu peux rappeler 3, 4, 5, 10 fois. Peut-être que la 12e fois, c'est la fois que tu vas dire « OK, là, je prends l'aide, puis j'y vais ». Fait qu'au moins, tu auras fait ces moves-là. Et vous pouvez aller chercher de l'information. Puis on aime bien ça le mentionner, leur site Internet, là, il y a un effaceur d'historique rapide. Fait que vous pourrez l'effacer. Fait qu'on ne pourra pas retracer comme de quoi vous étiez sur ce site Internet-là. Alors, si vous avez besoin ou quelqu'un autour de vous qui a besoin, n'hésitez pas à faire appel avec eux. Julie-Pierre, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Merci de ton passage.
Merci à vous. Bye-bye.
Bye.